Bonsoir, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place, ceux qui sont parmi nous ce soir. Très content de pouvoir être de retour un mercredi. Pendant longtemps, on s'est senti très seul les mercredis. Et voilà, on est de retour, donc porte ouverte pour tous ceux et celles qui désirent venir à la maison de Dieu, prendre un temps de louer le Seigneur, de plonger nos regards, nos cœurs dans sa parole, avoir un temps de prière également. Eh bien, nous sommes là, donc bienvenue à ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous écoutent via la technologie également. Que Dieu vous bénisse. Il y en a plusieurs qui ont été très fidèles pendant ces 18 mois-là. Fidèlement, ils étaient au poste pour participer, pour écouter la parole de Dieu. Et on espère compter sur vous encore pour grandir dans votre foi et pour devenir encore de meilleurs enfants de Dieu au service du roi. Tout ça est possible également parce que bon, il y a une équipe qui est en place et je tiens à remercier parce qu'ils ont été d'une grande aide pendant 61 semaines lorsque je donnais le cours sur ou la série d'enseignements plutôt sur servir en temps de défi. Il y a eu le frère Gilles, le frère Lionel, la sœur Patricia, la sœur Dorothée qui se sont relayés un peu durant toutes ces 60 semaines-là et qui ont permis que nous puissions être connectés. Et donc, je voulais juste les remercier une fois de plus et remercier ceux qui sont également en place. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse tous ses enfants. On va prier avant toute chose. J'ai envie de prier pour également des besoins, des requêtes qu'ils pourraient avoir au milieu de nous. Au fait, il y en a. On a déjà eu certaines communications qui ont été publiées concernant le décès de M. Gabriel, qui est l'époux de la sœur Pascale. Et donc, je pense qu'il y a déjà eu une publication sur les médias sociaux par rapport à ça. Donc, il y a un décès dans la famille, dans l'Église. Donc, on va prier pour la sœur, pour son fils, pour les besoins qu'ils peuvent avoir. Je pense que ça fait longtemps qu'on ne prie pas ensemble pour des besoins, n'est-ce pas? Et la Bible dit, si deux ou trois se mettent en accord sur terre, eh bien, notre Père céleste va entendre et va répondre. Donc, mettons-nous maintenant dans ce mode de prière avant de rentrer dans la parole de Dieu. Et peut-être vous avez des requêtes, vous avez des besoins, vous en connaissez, présentons-le devant le Seigneur. Prenons quelques instants pour prier ensemble. Élevons la voix. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que nous sommes réunis en ton nom. Et parce que là où deux ou trois Seigneur sont réunis, Seigneur, tu garantis ta présence. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut. On veut ta présence. On veut, Seigneur, que tu sois au milieu de nous. On veut, Seigneur, que tu sois dans nos vies. On veut, Seigneur, que tu remplisses notre vie, notre existence. Que tu remplisses l'Église que nous sommes, le regroupement de personnes. Que tu remplisses de toi. Nous voulons que ce lieu aussi soit rempli de toi. Seigneur, que tu sois la plénitude de tous. Et Seigneur, que nos cœurs débordent, Seigneur, de ta présence, de ta joie, de ton esprit, Seigneur, de ton onction, de ta connaissance, de tout cela, Seigneur. Merci parce que, à travers le sacrifice et la résurrection, cela est possible et accessible pour nous ce soir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, bénir ton peuple, bénir, Seigneur, les enfants, Seigneur, les différents besoins qui peuvent être présents au milieu de nous, les fardeaux, les requêtes. Tu nous dis, Seigneur, de déposer nos requêtes, Seigneur, de venir à toi si nous sommes chargés ou fatigués et nous pouvons, Seigneur, retrouver, rencontrer, Seigneur, du repos, de la paix pour notre âme, pour notre esprit. Seigneur, des bien-aimés qui ont besoin aujourd'hui de déposer, Seigneur, leur fardeau à tes pieds, Seigneur. Puisses-tu les toucher, les bénir, Seigneur. Toucher leur vie, toucher, Seigneur, leur cœur, fortifier leur foi. Envoyer une parole, Seigneur, d'encouragement. Une parole, Seigneur, qui les rappelle que tu ne les abandonneras jamais. Que tu es avec eux, Seigneur, jour et nuit. Que leur vie est entre tes mains. Et Seigneur, et que tu accomplis ta parfaite volonté, Seigneur Jésus. Merci d'être avec nous, de prendre soin, Seigneur, des familles, des foyers, Seigneur. Nous prions, Seigneur, de façon particulière pour la sœur Pascale, Seigneur, qui vit ce décès de son mari, Seigneur Gabriel. Nous voulons les présenter devant toi, Seigneur. Que ta main puissante et précieuse, ta main, Seigneur, bienveillante, les garde, Seigneur, dans ton amour. Garde, Seigneur, notre sœur et son fils dans ton amour, dans ta paix, dans ta grâce. Et que, Seigneur, également, tu sois glorifié. Qu'il cesse, tout ceci serve pour ta gloire, pour le témoignage de l'Évangile, Seigneur, pour que des vies soient touchées. Pour que des vies, Seigneur, soient attirées à ta lumière. Seigneur, glorifie-toi. Dans tous les préparatifs, les choses qui auront lieu également dans les prochains jours concernant, Seigneur, les funérailles, Seigneur. Que ta bénédiction repose, Seigneur, sur tous et chacun. Et que, Seigneur, tu sois honoré et glorifié, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour tous les gens qui sont malades au milieu de nous, Seigneur. Les gens, Seigneur, qui font face à des maladies, à des situations dans leur santé, Seigneur, qui représentent des défis. Seigneur, par tes meurtrissures, tu dis, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons cette confiance pleine, Seigneur, que tu es capable. Seigneur, qu'il n'y a aucune limite à ton amour, aucune condition à ta puissance, que tu peux tout faire et tout accomplir. Que même, Seigneur, si les médecins disent qu'il n'y a rien à faire, pour toi, Seigneur, ce n'est pas ce diagnostic qui te limite. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, merci de guérir, de toucher, Seigneur, l'assemblée, là, Seigneur, où il y a la maladie. Seigneur, là, Seigneur, où il y a des gens qui souffrent dans leur santé. Merci de te glorifier de façon spéciale, Seigneur, dans leur vie. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous et que ta parole également, Seigneur, est un remède pour nous. Que cette parole, Seigneur, qui est ta parole, ce n'est pas la mienne, c'est ta parole, qu'elle fasse son effet, l'effet, Seigneur, dans notre cœur, de nous sanctifier, de nous purifier, l'effet, Seigneur, de porter du fruit, l'effet, Seigneur, de renouveler notre connaissance, notre intelligence, de nous édifier, mais également de toucher et de guérir, Seigneur, nos corps, Père. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc, on va tourner dans Galates, chapitre 6. On va lire des versets 1 et 2. Donc, s'il y a d'autres personnes qui se sont joints à nous via Internet, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous avoir et peut-être que la semaine prochaine, on vous aura ici dans la salle avec nous. Donc, nous allons lire dans Galates, chapitre 6, versets 1 et 2. C'est, dans le fond, c'est comment est venu ce message. Eh bien, dimanche, après l'assemblée, quelqu'un est venu me poser une question et m'a demandé tout simplement qu'est-ce que ça veut dire de porter les fardeaux des autres. Et j'ai pu amener une réponse à cette personne, mais après ça, la question m'est restée dans l'esprit et je pense que le Seigneur avait quelque chose aussi à me parler et à nous parler ce soir par rapport à ça. Donc, de porter les fardeaux les uns des autres. Donc, nous allons faire la lecture. Donc, dans Galates, chapitre 6, versets 1 et 2. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On parle de la loi de Christ. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence qu'on parle ici de la loi, qu'on parle de la loi de Christ. Parce que Paul, dans l'Épître aux Galates, amène comme sujet central, dans le fond, la loi. Et à quelle loi l'Église et les croyants doivent se soumettre. Dans le fond, le grand thème dans l'Épître aux Galates, c'est la grâce versus la loi. Vivre sous la grâce ou vivre sous la loi. Et les Galates, dans le fond, vivaient, il y avait un partage, il y avait même, on pourrait dire, une certaine division. Ils étaient divisés entre avoir la foi en Jésus-Christ, donc avoir la foi dans le sacrifice et dans la résurrection de Jésus-Christ pour le salut, donc la grâce, mais également avoir l'obéissance ou la soumission à toutes les ordonnances et toute la loi de Moïse. Et il y avait ce contraste-là. Il y avait ces deux courants de pensée qui luttaient, qui étaient en conflit parmi les Galates. Et lorsque Paul a ressenti ou a pressenti ça, eh bien, il a senti dans le fond le besoin d'intervenir. Et il intervient assez promptement parce que dans sa lettre qu'il envoie aux Galates, on peut le voir déjà au chapitre 1, versets 6 et 7. Attendez que je le retrouve un petit peu. Il va avec certaines salutations, comme il fait d'habitude. Et dans certains cas, il utilise tout le chapitre, dans le fond, pour faire des éloges ou pour parler un peu de grandes choses spirituelles. Et ici au Galates, bien, déjà au verset 6, il dit, « Je m'étonne. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Donc, Paul ne perd pas de temps. Il voit qu'il y a un danger. Il voit que la grâce, la foi pure et authentique en Jésus-Christ, elle est menacée par les traditions, par la loi. Et donc, il s'empresse de dire, écoutez mes amis, qu'est-ce qui est arrivé? Vous alliez si bien dans votre course, dans la foi, dans la grâce, et là, vous avez bifurqué, là, vous êtes passé à quelque chose d'autre. Que ce n'est pas l'Évangile, ce n'est plus l'Évangile, c'est un autre Évangile. Parce qu'il y avait un peu cette combinaison-là, cette mixité entre la grâce, la loi de la grâce, et la loi de Moïse. Et donc, le message, si on peut dire, central, ou la recommandation centrale, que Paul envoie aux Galates, c'est eh bien, après avoir reçu la grâce de Dieu, après avoir été sauvé par grâce, ne pas retourner sous le régime de la loi. Et donc, la seule loi pour le chrétien est la loi de la grâce, et donc la loi de Christ. Donc, c'est important de faire ce lien-là avec le passage, parce que certains pourraient se dire, OK, pourquoi est-ce qu'il dit « Vous accomplirez la loi de Christ » Donc, quelle est la loi de Christ? Il fait vraiment ce parallèle avec la réalité que l'Église des Galates était en train de vivre, c'est-à-dire vivre sous la loi de la grâce ou vivre sous la loi de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Maintenant, si nous allons à porter les fardeaux, au verset même, là, porter les fardeaux, on va prendre quelques mots pour peut-être comprendre un petit peu plus de quoi nous sommes en train de parler. Donc au verset 2 du chapitre 6, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Premier mot, le mot « porter ». Porter qui, en grec, c'est « bastasso », qui veut dire « se charger, supporter, emporter ». Et donc, ça implique de prendre sur soi. Et je pense que pour ceux qui sont présents, il faudrait se rapprocher peut-être parce que les notes sont un petit peu petites. on parle de se charger de quelque chose. De quoi? On ne le dit pas encore. Mais c'est de transporter, d'emporter, de supporter quelque chose. Et en deuxième lieu, on parle aussi d'une implication qui est de persévérer dans la tâche. Donc, ce n'est pas juste... Je le prends et je prends quelque chose, je l'amène là. Je prends quelque chose pendant 2 secondes et je le dépose par la suite. Non. Il y a une. On parle ici aussi de persévérer, donc de rester fidèle, d'être en continu dans cette action-là de porter quelque chose. Donc, de se charger de quelque chose. Donc, je prends quelque chose. Je me charge de cette chose-là, d'un poids, de quelque chose. Et ce quelque chose-là, eh bien, c'est fardeau. Et fardeau, en grec, c'est le terme baros. Et les significations, les autres synonymes qu'on retrouve pour baros, c'est poids, lourdeur, accablement, fardeau, ennui, difficulté. Donc, lorsqu'on parle de fardeau, on n'est pas en train de parler de sentiments. On parle vraiment de situation. On parle vraiment de problèmes. On parle vraiment de difficultés, d'ennui et de lourdeur, de quelque chose qui pèse lourd. Et pèse lourd sur qui? Est-ce que je prends mes propres fardeaux? Est-ce que je prends mes propres difficultés sur moi? Est-ce que je prends mes propres ennuis sur moi et j'accomplis à ce moment-là la loi de Christ? Non. Il est bien clair, il est dit, les fardeaux, les uns, des autres. Donc, ce n'est pas mon fardeau que Christ n'est pas intéressé à voir si je porte mon propre fardeau. Christ, ce qu'il regarde, c'est si je porte le fardeau des autres. Vous comprenez? Donc, que je peux venir avec toute la foi et toute l'assurance et toute la conviction dans la parole de Dieu, mais si je ne fais que porter mes fardeaux dans la vie, eh bien, je suis en train de manquer quelque chose d'important dans ce qu'est le caractère et le modèle même de Jésus-Christ. Et les uns les autres, toute cette expression-là en grec, c'est le terme allelon, qui veut dire réciproquement, mutuellement. Donc, on parle de quelque chose qui est mutuel, qui est réciproque. Je prends tes fardeaux, tu prends mes fardeaux. Nous prenons les fardeaux des uns des autres. Donc, c'est une tâche, c'est une activité, c'est une valeur qui est mutuelle, qui est partagée, qui est comprise, qui est accepté et qui est mise en application par l'ensemble de l'Église. Il ne s'adresse pas juste à un certain groupe de l'Église, aux Galates. Il parle à tout le monde, à tous les croyants. Et il dit, portez les fardeaux les uns des autres. La deuxième partie de ce verset-là, on retrouve, ainsi vous accomplirez. Accomplir. Le terme grec, c'est « anaplero », qui veut dire « remplir, compléter ». Donc, accomplir, ça veut dire c'est de, c'est de faire toute la tâche, c'est de compléter le travail. Ce n'est pas de laisser les choses à moitié réalisées. Ce n'est pas de « je fais quelque chose et là, après ça, je me distrais ou je passe à quelque chose d'autre. » Ou quand j'en ai plus envie, quand ça fait moins mon affaire, quand je ne trouve plus que le ratio bénéfice est à mon avantage, à ce moment-là, je vais passer à autre chose. Non, il dit, c'est de cette façon qu'on va compléter pleinement. Donc, on va être pleinement conforme avec la loi de Christ. Et la loi, le terme loi ici, en grec, c'est nomos, qui veut dire un commandement dont l'observation est approuvée de Dieu. OK? Un commandement dont l'observation est approuvé de Dieu. Et bien sûr, l'autre mot important, eh bien, c'est la loi de Christ. Donc, Christ, en grec, c'est Christos, c'est le oint, c'est le Messie, le Fils de Dieu qui est venu pour le salut de l'humanité, pour le salut du monde. Donc, d'un côté, nous retrouvons des tâches, un travail, un service qui est terrestre. Ce n'est pas quelque chose de métaphorique de porter les fardeaux, là. On n'est pas dans la littérature, on n'est pas dans l'abstrait. C'est vrai, c'est concret, c'est réel, c'est terrestre. Mais c'est aussi temporaire, parce que c'est terrestre, c'est temporaire. Et donc, un service d'un côté qui est terrestre et temporaire, mais qui a une portée qui est céleste et qui est éternel. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est-à-dire ici sur terre, nous le faisons. On ne va pas porter les fardeaux les uns des autres au ciel, parce qu'il n'y aura plus de fardeaux au ciel, amen. Donc, c'est ici-bas qu'on doit le faire. C'est maintenant, c'est dans notre quotidien, dans notre réalité, aujourd'hui, que nous portons les fardeaux les uns les autres. Et ce fardeau-là, cette petite tâche, elle peut être petite, elle peut être grande, elle peut être à la vue de tous, ou elle peut être faite en cachette. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que ce que nous faisons là accomplit la loi de Christ et donc a une portée qui est céleste et qui est éternelle. Ce qui veut dire qu'il y a des récompenses, il y a des couronnes, il y a des bénédictions en lien avec ce que nous faisons des fardeaux de nos bien-aimés. Il y a des bénédictions, il y a des couronnes qui sont en lien avec ce que toi tu fais des fardeaux de ton frère, de ta sœur, et ce que moi je fais des fardeaux de mon frère, de ma sœur. Donc voilà pourquoi il est important de s'arrêter là-dessus et de se dire, oh, OK, si je remplis la loi de Christ, donc le commandement, je dois porter donc une attention particulière à cela. Et pourquoi on parle de la loi de Christ? C'est parce que c'est Christ qui a, si on peut dire, qui est à l'origine de cette loi-là. C'est Christ le Messie, Christ loin, qui est venu porter les fardeaux du monde. On le chante, on le dit, Christ a porté nos péchés sur lui, Christ a porté nos maladies sur lui. Donc, Christ a porté sur lui les fardeaux du monde et lui-même le dit. Donc, lui-même est à l'origine de cette loi et lui-même l'accomplit. Parce que dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, ben, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En d'autres mots, ce que le Seigneur dit, c'est toi qui as des fardeaux. On va faire un échange. On va faire une transaction. Tout comme à la croix, il y a eu cette transaction-là. Et le pasteur Florent en a parlé longtemps dans le jubilé, cette transaction-là où est-ce que l'esclave est affranchi, où est-ce que l'esclave est racheté. Eh bien, Jésus aussi dit, ben, tu es fatigué, tu es chargé parce que tu as des fardeaux sur toi. Eh bien, viens, on va faire un échange. Donne-moi tes fardeaux, je te donnerai du repos. Pas pire, hein, comme deal. Le Seigneur invite. Le Seigneur t'invite ce soir, si tu es chargé, fatigué, d'aller au Seigneur et de déposer tes fardeaux et il te donnera en échange du repos, de la paix. Donc, lui-même est à l'origine de cette loi. C'est une loi qui lui appartient, c'est la loi de Christ, et lui-même l'accomplit. Et Pierre le réitère également dans son épître lorsqu'il dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc, Pierre a eu cette expérience avec Dieu et il le répète et le confirme. Oui, il est possible de déposer nos fardeaux, nos charges sur lui, nos soucis sur lui. Et donc, ce soir, si tu as des soucis, si tu as des fardeaux, si tu es chargé, le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour toi. Mais comprenez une chose, c'est que Dieu fait également participer ses enfants dans ce qu'il fait. Et donc, si moi j'ai des fardeaux, je les dépose aux pieds du Seigneur, à ce moment-là, je suis libre de porter les fardeaux de mes frères et de mes sœurs. Et de là l'importance d'avoir cette compassion mutuelle. Et d'avoir un changement aussi de mentalité et se dire, « Mon Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de bien pour mon frère ou pour ma sœur aujourd'hui? Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux aider aujourd'hui? » Et je suis à peu près sûr que personne ne fait cette prière le matin. Soyons honnêtes. Pas grand monde qu'on fait, « Seigneur, qui je peux bénir aujourd'hui? » Ou « Seigneur, quel fardeau je peux porter ce matin? Je me sens en forme, là. J'ai bien dormi. Je vais prendre un bon déjeuner, Seigneur. Je vais avoir un bon temps de prière. » Fait que, ah ouais, les fardeaux, là, Seigneur. Fait que quelqu'un m'appelle avec plein de problèmes, puis je vais m'en occuper, je vais porter les fardeaux de cette personne. Personne ne fait ça, n'est-ce pas? On est tous, « Seigneur, je veux être le plus léger aujourd'hui. Seigneur, je veux passer une journée où est-ce que je vais vivre ce qu'on appelle ici au Québec la sainte paix. Je veux qu'on me laisse tranquille, Seigneur. Je veux être en paix. Donc, je veux pas qu'on me dérange. Je veux pas te déranger par les autres. Et donc, Seigneur, je veux être tranquille. Oh, ça, c'est le souhait qui fait partie de nous tous, là. Seigneur, on veut avoir la paix. On veut passer une journée tranquille. T'sais. On sait qu'on a peut-être le trafic, faut se taper le trafic. On a peut-être des réunions un peu longues, compliquées. Donc, tout le monde veut passer à travers la journée sans histoire, le plus léger possible. Et donc, personne ne s'est dit, « Mon Seigneur, qui je peux aider aujourd'hui? Quel fardeau je peux prendre de sur un de mes frères ou de mes sœurs et accomplir la loi de Christ? » Personne ne fait ça. Mais c'est là où est-ce qu'on doit réaliser qu'on on a certainement encore du travail à faire dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées. Parce que ça place vraiment l'intérêt des autres avant le nôtre. Et ça, c'est le fondement du service. Servir Dieu, c'est ça. C'est placer l'intérêt de l'autre avant le mien. C'est le modèle et c'est l'exemple parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette loi-là, que lui a établie, il l'a accomplie Et il s'attend que nous fassions la même chose. Il s'attend que nous fassions la même chose. Et donc, pour nous de faire aux autres ce que Christ a fait pour nous. Si toi, tu comprends et tu réalises que Christ a porté tes fardeaux, si nous comprenons, nous réalisons et nous louons le Seigneur pour cela, nous louons le Seigneur parce qu'il a porté nos fardeaux. Si nous comprenons cette partie-là, on ne peut pas juste vivre dans cette partie-là. Il faut passer à l'autre étape. Où est-ce que nous devenons compagnons de service, si on peut dire, avec le Seigneur, dans lequel nous poursuivons son ministère et que nous nous plaçons dans cet état, dans cette position, dans cette disposition même de servir et de porter les fardeaux des autres. Il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit pendant que je travaillais le message, où est-ce qu'on voit dans le fond que Jésus veut enseigner ça à ses disciples. Et c'est lorsqu'il y a la multiplication des pains. On le voit dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6. Où est-ce qu'on voit que Jésus voyait la foule qui était là, une foule nombreuse, où est-ce que c'était comme des brebis sans berger. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion pour cette grande foule et qu'il s'est mis à leur enseigner, à leur annoncer la parole et que ça a duré pas mal toute la journée. Où est-ce qu'il a enseigné cette grande foule? Donc, toute la foule, dans le fond, l'a passé toute la journée sans manger. Et les disciples, qui sont très intelligents, très rusés, ils ont commencé à se parler entre eux et ils se sont dit, là, on a comme des milliers de personnes assises devant nous. Et à un moment donné, Jésus va arrêter de parler. Et là, quand Jésus va arrêter de parler, la prochaine pensée qui va venir dans la tête de tous ces gens-là, c'est qu'ils vont avoir faim. Fait que soyons stratégiques. Et parlons au Seigneur pour qu'il les renvoie. T'sais, pour qu'ils finissent l'assemblée assez rapidement. Là, on ne rallonge pas trop l'affaire avec des chants. On coupe ça sec, puis ah ouais, vous devez partir. Bon retour à la maison. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Coupe ça sec. C'est un peu ça qu'ils ont dit au Seigneur. Puis ils ont cherché à ce que le Seigneur renvoie la foule. Là, Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit non, non, non. Qu'est-ce qu'il leur a dit au verset 37? Donnez-leur vous-même à manger. En d'autres mots, les disciples envisageaient, anticipaient. Ah, ils sont bons, hein? Anticiper un besoin. Il y a quelque chose qui va se présenter dans quelques minutes et ça va devenir une tâche, un devoir qu'on ne veut pas s'en occuper. Fait qu'ils ont dit au Seigneur, Seigneur, renvoie les gens pour qu'ils aillent dans les villages, dans les villes aux alentours et qu'ils puissent aller trouver là de quoi manger. Donc, en d'autres mots, Seigneur, que ce fardeau-là de nourrir ces gens-là soit pas notre fardeau, soit le fardeau d'autres personnes. Que le problème de mon frère, que le problème de mon voisin, ben, on va le, en bon québécois, on va le pelleter ailleurs. On va le pelleter chez l'autre voisin. Mais nous, on va être correct. C'est un peu ça ce que les disciples ont essayé de faire. On veut pas s'en occuper. On veut pas que ce soit notre problème. On veut pas que ce soit notre fardeau. Et Jésus leur a dit non. En leur disant, donnez-leur vous-même à manger, il leur a dit, vous allez porter ce fardeau-là. Vous allez porter ce fardeau-là et vous allez vous occuper de ces personnes-là. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Mais Seigneur, on n'a rien de quoi leur donner à manger. Et comprenez là que Jésus était en train d'enseigner quelque chose aux disciples. Et il y a une leçon pour nous aussi. Parce que Jésus, au départ, il était ému de compassion. Et bien sûr, cette compassion-là n'était pas partagée par les disciples. Parce que si les disciples auraient eu compassion de la foule, ben, ils n'auraient pas eu cette réaction. Et clairement, les disciples aussi ont manqué de foi. Ayant le Seigneur, faiseur de miracles, pour qui rien n'était possible, il est capable de tout faire. Ils auraient pu avoir une autre approche et dire, « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord, tu nous demandes, tu veux que nous prenions ce fardeau sur nous? Ok Seigneur, mais comment est-ce qu'on gère ça? Seigneur, comment est-ce qu'on règle? Comment est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté là-dedans? » Non, ils ont dit, « Mais Seigneur, on n'a pas de ressources. On n'a rien de quoi leur donner à manger. On n'a pas d'argent pour acheter, mais on n'a rien aussi non plus pour leur donner. Donc, Seigneur, ce que ta demande, elle n'est pas logique. Et parce que ta demande, elle n'est pas logique, eh bien, je ne suis pas. » Voyez comment nous aussi, bien des fois, on peut se dire, « Ouais, mais c'est parce que moi, porter ce fardeau-là, c'est pas logique. Ça fait pas de sens, c'est pas raisonnable. » Et donc, on passe au suivant. Ou on pèle chez le voisin. Mais ce qu'on doit comprendre ici, c'est que à la base de notre vie, on doit comprendre l'importance de la compassion. Un chrétien, un vrai, authentique, se doit d'avoir de la compassion. La même compassion que Christ a eue lorsqu'il a vu la foule, l'Église, nous devons avoir cette même compassion-là. Si nous n'avons pas cette même compassion-là, nous avons un problème. Deuxièmement, c'est la foi. Les disciples ont manqué de foi. Ils ont vu la situation. Ils ont vu des milliers de personnes, des milliers de bouches d'estomac à remplir. Ils ont vu leur situation, leurs ressources. Ils ont dit, on fait les mathématiques, rapidement on arrive à la conclusion que ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas logique. Et à aucun moment donné, ils ont mis en action leur foi. Ou même ils ont demandé au Seigneur de sa direction, de sa sagesse, pour savoir comment s'occuper de ces gens-là. Et donc un croyant également, un chrétien vrai, authentique, doit être un homme et une femme de foi. Nous devons être des gens de compassion, nous devons être des gens de foi. Surtout dans les temps que nous vivons, dans le contexte qui est en bouleversement, en grand changement, l'Église a besoin d'être remplie de compassion et elle a besoin d'être remplie de foi. Si on veut vraiment accomplir la loi de Christ, ces deux valeurs sont essentielles. Et ces deux valeurs sont plus importantes que les ressources. Et ça, c'est un autre élément aussi, parce qu'on peut se dire, je ne peux pas m'occuper de toi, parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les ressources financières, matérielles, humaines, peu importe. Pour Dieu, ce n'est pas ça qui est important. Pour Dieu, ce qui est important, c'est la foi et la compassion. Avons-nous la compassion? Avons-nous la foi? Si oui, nous allons être en mesure d'accomplir la loi de Christ. Sinon, nous n'allons rien faire. Et les gens vont continuer à souffrir sur leur fardeau, sous leur charge. Et sur leurs difficultés. Donc, un très bel exemple que Jésus a voulu enseigner à ses disciples, de porter les fardeaux des autres. Et pour terminer, dans ce qu'on a lu ici dans le verset 1 de Galates chapitre 6, il dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Une personne qui est prise en faute, une personne qui est reconnue comme ayant tombé, ayant commis une ou plusieurs fautes, quel est le sentiment qui le domine? Eh bien, c'est la culpabilité. Et cette culpabilité peut être un fardeau qui peut être porté pendant des années, pendant tout le restant de la vie de cette personne-là. Beaucoup de gens vivent avec un sentiment de culpabilité pour des choses qui se sont passées il y a des années et qui traînent encore ce boulet aujourd'hui. Et qui servent le Seigneur et qui sont actifs dans l'Église, mais et que de temps en temps, ce boulet-là revient et il regarde ailleurs. Et après un certain temps, ce fardeau-là se refait sentir encore. Mais on ne le traite pas. On continue à regarder ailleurs. Et il y a des gens dans le monde, il y a des gens dans l'Église qui vivent avec ce fardeau-là de culpabilité à cause d'une faute, à cause d'événements qui sont survenus dans leur vie dans le passé. Et la recommandation ici de Paul, c'est la suivante. Il dit, ben, redressez-le avec un esprit de douceur. En d'autres mots, redresser la personne avec un esprit de douceur, je ne vais pas vous donner le grec, mais les synonymes, il y a de raccommoder quelqu'un. Donc, c'est de réunir à nouveau cette personne-là avec le corps de Christ. Et ça veut aussi dire de perfectionner cette personne-là. Donc, c'est de faire fi de cette culpabilité-là, parce que la personne, c'est, elle est tombée. Et il faut être conscient que l'ennemi utilise ce fardeau de la culpabilité pour maintenir les gens à terre. Et qui continuellement leur ramène, ah, toi, tu as fait ça, tu n'es pas digne, toi, tu es à l'église, mais regarde ce que tu as fait, blablabla. L'ennemi amène ces pensées-là. Et donc, l'Église, elle, son rôle, oui, elle est de redresser, de ramener les choses dans leur ordre, comme elles doivent être, selon la parole de Dieu, mais avec un esprit de douceur, dans le but de raccommoder cette personne-là dans le corps de Christ. Bien sûr, si la personne veut. Après ça, si la personne ne veut pas, on ne force pas. On ne force pas les gens. Mais si la personne est repentante, et si la personne veut être restaurée, eh bien, l'Église a ce rôle, cette responsabilité de redresser, de raccommoder et de perfectionner même cette personne-là dans le corps de Christ. Et par la suite, c'est là le lien qu'on doit faire, c'est de porter également les fardeaux. En d'autres mots, une personne qui est redressée, une personne qui est dans ce processus-là, on doit lui retirer ce fardeau de culpabilité. L'Église doit faire très attention, nous on doit faire très attention de ne pas peser plus sur ces personnes-là pour tout le temps laisser voler au-dessus de ces personnes-là. Il y a eu de quoi, puis ça a tout le temps été là. Le Seigneur ne fait pas ça avec nous. Là. Le Seigneur dit, j'efface tes péchés et j'efface tes transgressions. N'est-ce pas? Il a porté sur lui nos fautes, nos fardeaux à la croix pour nous pardonner. Il nous a redressés avec la plus grande des douceurs, avec le plus grand des amours. Et donc également nous pouvons redresser, nous pouvons raccommoder, réconcilier avec amour, mais également enlever le fardeau de culpabilité qui peut être sur la vie de quelqu'un. Nous avons ce rôle-là, nous avons cette possibilité-là. Et donc, portons les fardeaux les uns des autres pour ainsi accomplir la loi de Christ. C'était l'enseignement pour ce soir. Donc, vous pourrez aller lire dans Galates, chapitre 6, ou si vous voulez lire également dans Marc, au chapitre 6, la multiplication des pains. On n'a pas lu, j'ai juste montré dans les grosses lignes qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Mais une chose doit être claire et sûre pour nous, c'est que nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Le Seigneur nous invite à nous décharger sur lui de tous nos fardeaux et de tous nos soucis pour que nous puissions porter les fardeaux des autres. Et je pense que c'est ça, porter aussi sa croix. Si quelqu'un veut suivre Christ, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Jésus, est-ce qu'il avait besoin de porter une croix? Non. Parce qu'il ne méritait pas d'être crucifié. C'est nous qui méritions de mourir. Donc ce fardeau-là, cette croix-là, il a porté notre croix, notre fardeau. Quel fardeau allons-nous porter aujourd'hui? Quel fardeau vas-tu porter demain? Des besoins, il y en a partout, dans l'Église, dans le monde. Mais si dans le corps même de Christ, il y a des manques, il y a des carences, il y a une mauvaise observation de cette loi-là, quel impact on va avoir à l'extérieur? Quelle portée va avoir notre message de l'Évangile lorsque, entre nous-mêmes, il n'y a pas cet appui mutuel, il n'y a pas cette compassion mutuelle? Donc, bien-aimés, faisons cette prière ce soir de nous mettre à disposition. En fait, premièrement, de déposer nos fardeaux aux pieds de Christ. Et de se mettre au service du Seigneur. Parce que Dieu veut vous utiliser. Peut-être que Dieu veut vous utiliser pour bénir une foule. Peut-être. Ou peut-être Dieu veut vous utiliser pour bénir une personne. Dieu sait ce qu'il a pour vous. Soyons là dans sa volonté. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions. Tu es bon et fidèle, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous invites encore ce soir, Seigneur, à déposer nos fardeaux à tes pieds. Je peux déposer, Seigneur, mes soucis, mes fardeaux, mes ennuis, ce qui m'accable, mes difficultés, tout cela, Seigneur. Je le dépose à tes pieds. Je suis conscient, Seigneur, que tu es mort pour moi, pour mes péchés. Parce que tu veux que je serve. Tu veux que je serve et que je contribue, Seigneur, à ton œuvre et à accomplir la loi de Christ en portant les fardeaux de d'autres, pas les miens. Toi, tu portes les miens. Mais tu t'attends, Seigneur, à ce que nous soyons, Seigneur, dans cet état de service, dans cette position, dans cette disposition, Seigneur, à te servir et à faire du bien en ton nom, autour de nous. Alors, Seigneur, que nous puissions avoir un changement de cœur, un changement de pensée, pour être davantage plus comme toi. L'Église en a besoin, le monde en a besoin. Tu nous as laissé comme commandement, Seigneur, de nous aimer les uns les autres, et qu'à travers cet amour, les gens sauraient, Seigneur, que nous sommes tes disciples. Que nous puissions, Seigneur, vivre et appliquer et observer cette loi, ce commandement, afin que tu sois honoré. Et qu'également, Seigneur, cela ouvre des portes pour l'Évangile, pour la foi, Seigneur, dans ce monde de plus en plus obscur. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, on va se quitter maintenant, on va se laisser, on va faire une dernière prière. Encore une fois, félicitations à ceux qui se sont déplacés, ceux et celles qui sont là, que Dieu vraiment vous bénisse, vous fortifie. On redémarre la machine. Fait que ça se peut que ce soit un peu comme... Mais tranquillement et sûrement, les choses vont mieux aller d'une semaine à l'autre. On va continuer. Amen. Et on va porter les fardeaux les uns des autres. OK, bon. Donc, on va prier. Seigneur, on te rend grâce, on te remercie. Seigneur, que tu puisses garder le retour à la maison de tous et de chacun. Seigneur, que nous puissions également avoir le discernement des opportunités que tu mets devant nous. Seigneur, de partager la parole, de proclamer, Seigneur, l'Évangile, de voir, Seigneur, même lorsque la situation n'est pas favorable, d'avoir le courage, Seigneur, de s'approcher à quelqu'un, Seigneur, de partager ta parole, partager la foi, et Seigneur, de façon concrète et pratique et réelle, Seigneur, de porter les fardeaux. Parce que, Seigneur, ce monde est accablé. Et Seigneur, tu es la réponse et tu es la solution pour ce monde, Seigneur. Merci de nous garder dans les autobus, dans les métros, Seigneur, dans la voiture, Seigneur, les autoroutes. Ta grâce et ta paix également. Repose, Seigneur, sur tes enfants ce soir, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain matin, bénédiction matinale, 8h30. Les inscriptions également pour dimanche. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour le faire. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Dieu vous bénisse à la maison. À la prochaine.